Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamain.
L'After Foot RMC, 22h. Simone Rovera, Jonathan Macardy, messieurs les directs de partout entre l'Inter et l'Olympique Lyonnais après 67 minutes de jeu. Les buteurs lyonnais, Lacazette et Cherki, on en parle tout à l'heure. Et puis l'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne avec toi, Pierre Thévenet.
3-1 toujours pour le Bayern. 4-1, des buts de Moussiala, Mané, Pavard et Gnabry contre un but d'Alsterenberg pour Leipzig. On joue la 70e minute de jeu. À noter l'entrée en jeu de Ryan Gravenberch, la nouvelle recrue du Bayern en provenance de l'Ajax. 4-1, 70 minutes de jeu.
Très attendu au Bayern Munich, Gravenberch. Marseille, la Ligue 1, Simone valide le mercato de Pablo Longoria. Mais il y a un mais. Jingle, Simone revient.
Ah bah, je vois. Winnie l'ourson en italien, je le fais pas mal.
Andiamo, Christopher.
Et quale sarà mai questa cosa? Christopher Robin.
C'est le vrai Winnie à la fin ou pas? Ah, tu le tiens bien, hein? Tu le tiens bien, ton Winnie l'ourson.
Bah, écoute, quand tu es.
T'as grandi avec Winnie, toi aussi ou pas?
Ouais, un peu.
La génération Winnie, quoi.
Après, tu le
Bourrico, tu as connu Bourrico?
Tu le prends avec les enfants. Bourrico, ça, c'est quoi? Parce qu'en italien, je les connais mieux.
Oui. Bourrico.
Io.
Io. Io. D'accord, ok, très bien. Intéressant. Jonathan, un avis sur Winnie l'ourson? Non? Ok. Si on continue, il vient nous dire en 30 secondes que c'est pourri.
Pas du tout.
Ça n'a aucun sens.
Pas du tout, le petit cochon, il est mignon, là.
Allez,
il fait penser à certains.
Je sais même plus comment il s'appelle. Porcinet. Arrête, c'est terrible. Porcinet. Ah, tu vois, tu connais en plus.
Bien sûr, je connais.
Voilà.
Je sais pas, je connaissais pas.
Parce qu'au final, c'est pop, Winnie Pooh. C'est une culture populaire. Donc,
c'est pas la Winnie. Ah, Winnie l'ourson, c'est très, oui. C'était sur Disney Channel en France, tu vois. Dans une émission. Bon, parlons de Marseille, les gars. Tu veux revenir sur le mercato de Pablo Longoria, que tu trouves intelligent. Mais il manque quelque chose.
Alors, ça, au final, il y a une cohérence en rapport à ce que étaient les projets. C'est-à-dire, oui, j'ai toujours dit que l'objectif de l'OM, de Longoria, c'était quand même d'avoir des jeunes à faire monter et de pouvoir les revendre aux gros clubs, de pouvoir faire des investissements comme ça, de montrer que l'Olympique Marseille arrive à former, à créer, à acheter des jeunes et à les revendre beaucoup plus cher. Mais il y a aussi la recherche de résultats. Et dans cette logique, on peut comprendre que cette année, il y a des joueurs des 30 ans qui arrivent, plus ou moins, je pense à Gigo, qui a une expérience internationale, je pense à Jonathan Klaus, qui c'est pas les jeunes sur lesquels tu vas faire la plus-value, mais c'est une valeur sûre de la Ligue 1 et qui aujourd'hui aussi est internationale. Tu vas prendre peut-être un Alexis Sanchez, qui c'est aujourd'hui une piste, apparemment, selon ce que je comprends, plutôt concrète et sur laquelle il a l'espoir de retrouver une Sanchez, pas celui de la saison dernière, pas celui de meilleure année d'Arsenal, mais au moins celui de la saison avec Antonio Conte, où il avait fait bien sa première saison à l'Inter. Donc, il y a cette complémentarité des choix sur les jeunes, je pense à Touré, évidemment, je pense à Suarez, et les joueurs plus expérimentés qui peuvent donner des résultats tout de suite, qui au final fait en sorte qu'on est, oui, à l'étape 2 du projet Longoria, c'est-à-dire prendre les jeunes qui peuvent faire vraiment la grosse plus-value et consolider une équipe qui a déjà eu quand même des résultats, la qualification à la Ligue des Champions, essayer de rester dans ce niveau de compétitivité. Mais, pour moi, cette année, si je regarde cet effectif, si je regarde ce que peut être l'once titulaire, si je regarde quelle va être l'envie, l'ambition, la détermination des Marseillais, je parle du public, de la ville, de voir des belles choses, ça me manque une étincelle. Ça me manque ce que l'année dernière, pour moi, était Sampaoli avec son caractère, ses choix, ses all-in offensifs, on peut dire, à un certain moment. Ça pourrait être Gerson, je ne suis pas sûr de sa continuité. Je ne suis pas les plus grands fans.
Pourquoi tu n'es pas sûr de la continuité de Gerson?
Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr. Lui, c'était aussi un homme à Sampaoli. Il faut que je trouve bien avec Tudor.
Tu n'es pas tout rose non plus avec Sampaoli, Gerson, hein?
Je suis d'accord.
Je le faisais jouer côté gauche, etc. Rappelle-toi.
il faudrait que, tu vois, il avait trouvé, je pense, un équilibre avec Sampaoli. Il faudrait qu'il les trouve avec Tudor aussi, déjà dans la position sur le terrain et aussi dans ce que demande cet entraîneur. Je suis pas convaincu que cette étincelle arrivera de Guendouzi. Et sur Payet, même si je comprends la logique de le mettre peut-être plus proche du but, de l'utiliser un peu plus comme deuxième attaquant, que comme latéral, je sais pas s'il aura la continuité pour ouais. être lui tout le temps cette étincelle-là. Donc, ouais. je valide au final l'idée des bases du marché qui est en train de faire l'OM, même s'il y aurait la partie vente à prendre en considération. Pour l'instant, on parle que des arrivées sur les ventes. Effectivement, il faut être un peu plus dur parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Mais ce que me manque cette année pour l'instant, on verra si c'est Sanchez en cas de l'arrivée, c'est vraiment celui qui fait rendre fou Marseille.
Je comprends. Je comprends ton raisonnement dans la mesure où il n'y a pas de recrue un peu phare pour l'instant. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés,
c'est
mais t'as
choix
pas.
Logique, comme t'as,
ouais, et t'as pas de figure de mec un petit peu qui fait vendre du papier, qui fait vendre des maillots.
C'est logique, etc. Mais il n'y a pas la touche créative, tu vois. Mais la touche artistique, tu sais, la touche finale.
J'aimerais répondre, Simone. Déjà sur Gerson, moi je pense qu'il va. Alors j'ai beaucoup de doutes hein, sur Tudor. J'ai vu le hélas pas mal de fois l'année dernière. Bah, j'adore la Serie A, comme tu le sais. C'est vrai que c'était une très belle équipe à avoir joué, mais j'ai quand même des doutes sur ses références passées. Pour moi, pour l'instant, ce n'est l'homme que d'une saison. Après, sur Gerson, en revanche, vis-à-vis du système de jeu que Tudor met en place, moi je pense qu'il va être comme un poisson dans l'eau. Je pense que dans dans ces deux postes de créateurs qui vont jouer derrière l'attaquant, je pense que Gerson pourra exprimer toutes ses qualités. Je pense que c'est un joueur de très grande classe, notre ami Gerson, et que cette saison va être celle de la confirmation pour lui après des débuts compliqués du fait de l'arrivée du Brésil directement avec les calendriers du championnat brésilien et français qui rentraient en collusion. Après, moi, je regarde juste une chose. Est-ce que l'effectif a été amélioré vis-à-vis de la saison passée? Et pour l'instant, je trouve que l'effectif a été fortement renforcé. Tu as certes perdu Saliba et Camara, qui étaient deux des joueurs les plus importants du 11. Mais Saliba, pour moi, a été remplacé par l'arrivée de Samuel Gigot, qui va faire.
Ah bon? Tu penses?
Non. Alors, je peux finir. Par l'arrivée de Samuel Gigot, qui pour moi est un excellent joueur, qui a des références européennes, et par l'arrivée de Chancel Mbamba. Alors évidemment, Mbamba, il n'y a pas le même potentiel de revente, il n'y a pas l'attractivité du fait qu'il soit jeune, etc. Mais c'est un joueur qui est habitué des joutes européennes, qui a une expérience en Ligue des Champions, qui fait partie des défenseurs centraux très sérieux sur la scène européenne. Donc je pense qu'à l'instant T, sur le court terme, Mbamba peut remplacer Saliba de manière avantageuse. Le départ de Camara, oui, c'est un drame, mais Camara, en fait, son poste, il n'existe pas dans le schéma de Tudor. Il n'existe pas ce poste-là de
c'est
pur numéro 6.
C'est pour ça qu'il est arrivé tout dehors, pour ne pas devoir peut-être, retrouver une Camara sur les marchés.
Au milieu de terrain, si tu me dis que tu pars sur la saison avec Guendouzi Rongier, pour moi c'est très bien. Alors j'attends une autre recrue, on verra qui elle sera. Il y a eu beaucoup de bruit autour de Jordan Veretout, ça aurait été magnifique effectivement si Veretout arrivait. Il y a encore des bruits sur Seko Fofana, évidemment ça serait magnifique s'il arrivait. Mais il ne faut pas perdre d'esprit deux choses. Et la première, je l'ai répété tout l'été, je vais le répéter une dernière fois. Personne dans le milieu journalistique, ou même dans le milieu, n'a d'infos sur ce qu'est le mercato de l'Olympique de Marseille, si ce n'est Titi, qui prend ses petits déj apparemment avec Pablo Longoria, et qui est, j'exagère, mais qui est le seul à dire un tel va arriver et le mec arrive.
Mais qu'est-ce
pour
que
l'instant,
tu racontes,
tous les mecs.
Mais n'importe quoi,
je peux te dire pourquoi.
Le seul à avoir des infos.
Non, mais j'exagère.
On a des gens qui travaillent ici aussi. Je fais du corporatisme en réalité. Flo Germain, il a parfois au téléphone, Pablo Longoria, par exemple. Mais il a quand même parfois au téléphone, même pendant ses vacances.
Non, mais j'exagère.
Simonet, il est possible que Simonet.
Les gars,
parle avec Pablo Longoria aussi.
Ne vous emballez pas, c'était un trait d'humour pour dire.
Non, mais ça fait deux fois que tu le dis en fait.
Oui, mais le problème, c'est que quand on regarde les joueurs qui sont arrivés à Marseille, il n'y avait aucune rumeur.
Mais
les
bravo, joueurs Titi, qui ont signé le boss, c'est très bien.
Non, mais on s'en fout, Titi, à la rigueur. Les joueurs qui ont signé à
l'OM. Deux fois que tu dis, c'est le seul, les gars, c'est le seul.
C'est un trait d'humour.
C'est une boutade.
La réflexion, c'est de dire que les joueurs qui ont signé à l'OM, il n'y avait pas de rumeur avant. Mbamba, il signe, personne ne l'avait vu venir, Nico. Luis Suarez, il signe, personne ne l'avait vu venir. Ouais, le gardien, pareil. Bon, Jonathan Clauss, oui, ça a été un feuilleton. Mais les autres joueurs, personne n'a vu venir. Ça, c'est la première chose à dire, c'est qu'on ne sait pas. Je me rappelle très bien qu'un soir, on fait un débrief d'un match contre je ne sais plus quelle équipe anglaise, perdu 3-0 par l'OM. Les mecs appellent en dépression. Le lendemain, il y a trois recrues. Le mercato de l'OM, il est comme ça, il est imprévisible. Donc, ça, c'est très difficile de se projeter. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que Longoria est en interne, ça a été décidé comme ça. Le mercato marseillais est en trois phases. Il y a eu la première phase avec les renforts. La deuxième phase, c'est la phase de vente. Alors ça, on sait qu'on va attendre Longoria là-dessus parce qu'on sait qu'il a du mal. Et je le redis, le symbole de tout ça, et ce qui nous en dira beaucoup sur les capacités de Longoria à gérer l'effectif, c'est le cas Douillet-Tchaletatsar, à qui il reste un an de contrat. Et on verra, en fonction des ventes, il y aura la troisième phase avec d'autres recrues qui arriveront. Et je pense, juste Simonet, tu me contrediras pas là-dessus, qu'avec cette Coupe du Monde qui est placée comme elle est placée, le marché, il va se décanter très lentement. Et je pense qu'on aura des gros coups à la fin du mois d'août.
Oui, après je pense aussi que l'enveloppe à disposition de Longoria n'est pas comment dire, à un certain moment va terminer. Il a déjà dépensé beaucoup plus.
C'est pour ça qu'il faut vendre. Il a pas dépensé tant que ça. Hein.
Plus de ce qu'on imaginait. Plus de ce qu'on imaginait.
Il a dépensé dans Jonathan Clauss.
Depuis qu'il est arrivé.
Non, c'était déjà.
Oui, déjà, mais je crois qu'il a plus de 140 millions d'euros dépensés.
Ouais, hein, ouais, arrivé, ouais. Mais cet été, ça va, les dépenses sont contenues. Et pour Suarez, j'ai vu personne le dire, mais je pense que Suarez, c'est une manière d'arranger la sauce avec Watford. S'il arrive de Grenade, je pense que c'est une manière peut-être, tu vois, de dire, bon, cette interdiction de recrutement
Suarez sur la toile. Suarez, c'était un objectif de Longoria il y a 2 ans. C'était un joueur qui voulait fortement. Après, lui, il a préféré une autre option plutôt à Marseille.
Je pense pas que c'est une manière d'arranger un peu les liens.
Non, c'est une opportunité. C'est une opportunité de mercato parce qu'au final, il était payé très peu en rapport à ce que était son valeur avant, son potentiel. Donc, c'est une opportunité sur laquelle Pablo ne pouvait pas perdre du temps ou perdre l'occasion. Ouais. Mais
un joueur moyen.
C'est un joueur sur lequel Longoria, depuis des années, avait beaucoup d'attention et s'attendait à le voir arriver très très haut. On verra, là il a l'occasion, il a un scénario. Après la question, s'il y a l'arrivée de Sanchez, avec l'arrivée de Suarez, avec encore Bakambu, avec Payet, avec
Dieng qui ne veut pas partir.
Dieng.
Il ne veut pas partir.
On parle dans l'intérêt du Benfica d'ailleurs.
On peut se poser la question sur l'avenir de Milik aussi.
Bien sûr.
Certains moments, il faut, si l'arrivée de Sanchez se confirme, en sachant que Sanchez faisait la gueule parce qu'il jouait très peu à l'Inter, même l'année où il jouait plus avec Conte, je ne le vois pas arriver dans un projet où on ne lui donne pas des garanties de temps de jeu, en sachant que lui, c'est encore un joueur important et il le fait savoir dans tous les moyens de communication quand il parle, quand il fait le poste
Internet. Il a 33 ans, hein.
Il se sent un joueur capable de faire la différence dans une équipe de haut niveau. Donc, s'il arrive, combien de fois il a, l'année dernière, il avait un poste, après qu'il avait marqué le but, je pense, en Super Coupe d'Italie face à la Juve, on ne tient pas une lion dans sa cage. Et faisait vraiment comprendre, même à ce coéquipier, qu'il était trop, c'était trop, lui, il était trop important pour rester tout le temps sur le banc.
Dis-nous, Simone, quand tu as compté, rappelle-nous à quel poste il joue.
Il jouait avant-centre, mais c'était en 3-5-2. Il y avait deux attaquants, et lui, il jouait dans les deux.
Donc, c'est soit Gerson, soit à la place de Gerson, soit à la place de Dimitri Payet.
C'est pour ça que moi, j'ai jamais dit, soit à la place de avant-centre.
Tu penses qu'il est capable de jouer au poste de 9, dans le profil de Giovanni Simeone?
Lui considère de l'être.
Lui considère. Parce qu'il va jouer avec Giovanni Simeone.
Si tu arrives à convaincre, parce que, sincèrement, pour moi, il est un peu vieux, et je suis pas les plus grands fans de Sanchez, tout le monde le sait. Mais si tu arrives à convaincre Sanchez à faire une année, une expérience à Marseille, parce que tu vas le convaincre, il a un salaire de 7 millions net à l'Inter, s'il vient, tu dois quand même lui donner une enveloppe financière aussi conséquente. Tu ne les prends pas pour le faire jouer comme troisième attaquant, premier remplaçant, et tu gardes aussi un Sanchez qui était déjà faisait la gueule quand il était remplaçant à l'Inter. J'imagine qu'il va faire encore plus de la gueule s'il vient et remplaçant à Marseille. Donc, s'il vient, pour moi, c'est pour jouer. Et donc, quelqu'un
de Payet. Va partir.
Quelqu'un de Payet. Partir et... Peut-être Milik.
Bah peut-être, mais j'ai du mal. Tu sais, j'ai du mal quand on voit comment Tudor jouait avec le Hellas l'année dernière, à imaginer Sanchez dans la peau du numéro 9. Tout comme j'ai du mal à imaginer Arkadiusz Milik dans la peau du numéro 9.
Je vois beaucoup plus un Sanchez numéro 9 avec Tudor que Milik.
Peut-être. Ouais. Mais moi, tu sais, je voyais carrément Bamba Dieng.
On va en parler justement Bamba Dieng dans un instant. Je vais accueillir Naïm.
Dans la tête de Tudor.
Naïm, supporter de l'OM au 32-16. Salut Naïm.
Salut l'équipe, vous allez bien ?
Bien,
et toi ?
Et toi, t'es en forme ?
Non, écoute, il faut, il y a le championnat qui reprend bientôt, on repasse aux choses sérieuses, la qualité du rectangle va reprendre ses droits, donc on est content. Hein.
Bon, est-ce que t'es content du mercato, toi, pour l'instant, en tout cas, à Marseille là ?
content. Alors, j'ai écouté Simonet et Jonathan. Je pense qu'il y a deux distinctions à faire entre d'un premier côté la réalité économique du club et d'un autre côté les ambitions qu'on a, nous supporters de l'OM et vous observateurs, pour ce club. D'un point de vue de la réalité économique du club, je vais me ranger derrière l'avis de Jonathan. C'est-à-dire que quand on regarde les recrues qui sont arrivées, que ce soit au niveau des Pistons, en défense centrale et probablement avec l'arrivée de Sanchez sur le secteur offensif, le mercato, il est plutôt réussi. On a quand même réussi à se remporter. Alors, ce n'est pas une équipe sûrement pour être ambitieux en Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui est taillée pour rejouer le podium en Ligue des Champions, ouais. En Ligue 1, pardon, l'année prochaine. Maintenant, si on met un peu ce côté un peu, de décence et de réalité économique de côté et qu'on parle en tant que supporter et notamment on se remet un peu dans l'état d'esprit dans lequel on était à la fin du match contre Strasbourg, si on se remet sur cette base-là, je suis tenté de dire que le mercato il est un peu décevant. Je vais rejoindre un peu Simonet, c'est-à-dire qu'on s'attendait quand même un petit peu à mieux.
Mais il n'est pas fini, Naïm. C'est pas fini, t'es d'accord là-dessus?
Il reste beaucoup d'éléments à faire venir. Hein.
Qu'est-ce que t'as
il reste pas encore beaucoup de joueurs à faire venir. Le gros du mercato est fait.
Mais
Jonathan.
Oui, mais attends, je fais de la fiction. Mais si t'as, je te dis au pif, ok. Si t'as Belotti et Vertu qui signent en fin de mercato,
ah oui, mais là...
qu'est-ce que tu dis?
Deux pistes
possibles et crédibles.
Belotti, c'est un attaquant comme c'est Sanchez. C'est quand même l'attaquant de qualité qui joue dans un autre championnat, etc. Après, sur le
Méditerranée. Qui a 28 ans. Qui n'en a pas 33 comme Alexis Sanchez.
Mais en tout cas, j'étais la vérité. Verretou, c'est un bon joueur qui est en phase de façon incroyable.
Un bon joueur à relancer. Hein.
Descendante cette année. Oui. Totalement à relancer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'était un joueur que j'adorais. Je l'ai dit toutes les années où je parlais de foot italien, à quel point il était un des meilleurs. Cette année, avec Mourinho, ça monte. L'exigence, ça monte la compétitivité du milieu de terrain, il est disparu. Donc, c'est aussi un petit mais pari.
Naïm.
Donc, il n'y a rien de dire, waouh, sincèrement, c'est pas que tu signes Tchouaméni.
Mais Marseille ne peut pas faire ça avec ses finances.
Vas-y, Naïm.
Simonet, sur Jordan Belotti, on est quand même sur un joueur qui, il y a moins d'un an, est encore sélectionné avec l'équipe de France. Notamment, il était titulaire contre la Bosnie.
Oui, oui.
Donc, c'est un joueur qui, quand bien même, il a eu un petit coup de mou avec un entraîneur, ce qui peut arriver à plein de joueurs. S'il revient à l'OM dans un contexte qui lui plaît avec la Ligue des Champions, oui. Je ne vois aucune raison pourquoi il ne serait pas bon. Et juste, je reviens juste sur ce qu'a dit Simonet sur Gerson. Je ne suis absolument pas d'accord avec lui parce que, en fait, je ne vois pas, vraiment pas, pourquoi Gerson, qui est sur une pente ascendante depuis maintenant 6-8 mois, qui a montré des très belles choses sur cette préparation, viendrait à décliner en termes de niveau.
Il n'y a
absolument aucune raison. Et l'OM, si l'OM veut être ambitieux au-delà du mercato, si l'OM veut être ambitieux, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions cette année, avant de regarder les recrues, va falloir déjà s'appuyer sur les forces en présence et sur les hommes qui ont été importants l'année dernière.
Pour moi, ça doit devenir le joueur le plus important de l'équipe, Gerson, cette année.
Je pense va falloir
qu'il doit franchir encore un cap
bien
pour
sûr.
Moi.
Ouais, oui, bien
moi,
sûr,
j'ai dit, je ne les vois pas être l'étincelle qui fait incendier toute cette...
Je pense que
c'est le joueur qui peut faire passer un cap à cette équipe. Parce qu'il a quand même des caractéristiques en termes de technique combinées avec une force physique qui est assez rare, je crois.
Vrai. Efficacité face au but aussi, Naïm.
Exactement. Il a 7-8 buts l'année dernière.
Non, il a 12 buts.
12 buts pour un joueur qui revenait d'une pige au Brésil où il n'a pas eu de préparation, il n'a pas eu de vacances. 12 buts, c'est pas mal. Vrai, donc, va vraiment falloir que l'entente avec Igor Tudor, et ça me permet vite fait de dire un mot, je finirai là-dessus, sur l'entraîneur, va falloir aussi qu'il y mette du sien dans sa manière de manager. Parce que moi, je veux bien les méthodes à l'italienne.
C'est ça l'interrogation.
Le fait qu'il soit un entraîneur rigoureux. Mais le problème, c'est que Sampaoli, quand il arrive après Villas-Boas et le club était en miettes. Donc, c'est plus facile de reconstruire. Là, Igor Tudor, il revient après un entraîneur qui a fait de très belles choses.
Mais
donc,
c'est ça l'interrogation, Naïm. En fait, la vibe un peu négative que tout le monde a sur le mercato marseillais, c'est ce départ inattendu de Sampaoli, l'arrivée d'un entraîneur qui, certes, si tu suis la Serie A, t'as vu des bons matchs du Lazio l'année dernière, mais qui est un entraîneur qui n'a aucune référence.
si ce n'est la dernière saison. C'est ça qui crée beaucoup de doutes quand même. Simonet, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'arrivée de Tudor est quand même très
surprenante. Je vais remercier Naïm d'abord avant qu'on prolonge. Merci Naïm, excellente soirée à toi. À bientôt sur RMC Naïm.
C'est un entraîneur pour moi plus pratique et pragmatique que spectaculaire. Je pense qu'il y aura de bons résultats, peut-être pas des super matchs.
Il n'a pas de référence à part l'année dernière.
Il a des références parce qu'il avait fait les boulots, il avait sauvé Udinese, il était arrivé. Après, il n'avait pas arrivé, bon. Il n'était pas jamais réussi à se mettre sur un projet dans le long terme.
Sampaoli, moi j'étais réticent, c'est quand même double champion d'Amérique.
Mais Sampaoli aussi n'est pas quelqu'un des projets à long terme. On les savait.
Ah bah ça, bien sûr.
Les gars, pause, Super Coupe d'Allemagne, parce que c'est un match de fou entre Leipzig et le Bayern, Pierre.
Et oui, les Allemands nous offrent des buts comme souvent. Leipzig a de nouveau réduit l'écart par deux fois. Christopher Nkunku, d'abord sur penalty à la 77e après une faute de Benjamin Pavard. Et là, à l'instant, c'est Dani Olmo qui ramène Leipzig à un but avec une frappe au premier poteau de Manuel Neuer. On joue la 90e minute. Il va y avoir un peu de temps additionnel. Il y a eu des changements. Le Bayern ne mène plus que d'un but, 4 buts à 3 pour les hommes de Julian Nagelsmann.
Tout à l'heure, je vais accueillir Bernard au 32-16, supporter de l'OM. Salut Bernard.
Ouais, bonne soirée, monsieur.
Bienvenue dans l'after, Bernard. Bon, t'es dans quel état d'esprit, toi, une semaine de la reprise en Ligue 1 et du premier match olympique de Marseille?
J'ai pas trop suivi. J'ai préféré faire une coupure.
T'as bien fait.
Une coupure pendant un petit moment.
C'est quand même qui a signé à Marseille, non?
Je regardais un petit peu quand même. De temps en temps, oui. Je suis pessimiste parce que on a un nouvel entraîneur, j'ai l'impression que c'est pas sérieux, c'est pas.
Mais pourquoi dis-nous, Bernard, il faut que tu me donnes des raisons objectives.
Vous l'avez dit, la dernière personne à qui vous parlez, Tudor, il est mort, ça passe ou ça passe, monsieur. Après, vous allez me dire que c'est l'équipe qui doit faire le jeu.
Bernard. Je comprends ce que tu nous dis. On vient d'en parler sur le fait que le changement d'entraîneur inattendu, précipité et brutal pouvait influencer la vie qu'on pouvait avoir sur le mercato marseillais. Mais regarde, les deux départs importants, Saliba et Camara. Si je dis que Saliba a été remplacé par Mbamba, Gigo, Isaac Touré, qui à mon avis va exploser très rapidement.
On ne sait pas. C'est vrai que c'est une interrogation. Jonathan, effectivement. Saliba, tu savais.
Mbamba. Alors Saliba, quand il arrive, tu savais.
Non mais je parle maintenant là, aujourd'hui. Mbemba, Saliba, c'est une perte. Je te parle du présent.
Et Mbemba qui arrive, c'est pas du très haut niveau.
J'attends de voir. Il y a des doutes sur Mbemba.
T'as vu les matchs de
Jonathan,
Porto.
Jonathan, c'est du bon niveau. Les très haut niveau, c'est autre chose. Saliba, c'était pas un niveau de très haut niveau. On le savait. On le savait quand il était jeune,
les gars.
On le savait quand il est parti à Arsenal.
Son prêt à Nice, il est moyen, les gars. N'oubliez pas, son prêt à Nice, il est moyen. Il y avait des doutes sur Saliba quand il arrive.
Le recrutement, il est.
Refaites pas l'histoire. Il y avait des doutes sur Guendouzi quand il arrive.
Vas-y, Bernard. Ah,
sur Guendouzi, il y en a encore.
Le recrutement, il n'est pas con. Mais les exigences, faut savoir jusqu'à quel niveau aujourd'hui l'OM veut aller. En Champions League, si on part avec cette équipe, entre guillemets, même si on prend un avant-centre ou un bon milieu de terrain, c'est ce qui nous manque, je pense. Oui.
Ben, bien sûr.
Je pense que ça va être compliqué.
Ils le savent, Bernard. Mais l'objectif du club, c'est pas de faire bonne figure en Ligue des Champions, hein. Je te le dis tout de suite. L'objectif du club, c'est que en 2024, il y a la réforme de la Ligue des Champions et que Marseille doit être un candidat crédible à cette réforme-là et qu'il faut absolument se qualifier en Champions tous les ans jusqu'en 2024. Les résultats qu'il fera, peu importe, du moins pour cette année.
Après le recrutement, moi, quand je vois les joueurs comme Isaac, on a une grosse marge de progression, on va vite le voir, attention, on est quand même relevé, il faut arrêter les conneries, hein, sur les côtés, ça va vite.
Bah, les côtés, après, on s'est amélioré, hein. Il y a Klos et Tavares, c'est quand même mieux que l'année dernière, non?
Voilà. Alors là, on a toujours eu un problème sur le côté gauche, depuis l'époque de Taïwo, on n'a jamais eu des grands
gauchers. T'exagères.
des grands gauchers ces derniers temps, mais là, j'espère que ce jeune, ce portugais, là, il va nous apporter.
On a eu Benjamin Mendy qui a fait des belles choses à Marseille aussi, n'oublie pas. Il y a des joueurs depuis Taïwo.
Tout à fait. Mais bon, c'est celui-là aujourd'hui, c'est lui qui te donne l'impulsion dans l'équipe. Mais l'impulsion doit venir d'où? S'il y a la rigueur derrière, et si au milieu de terrain, on a quand même quelqu'un qui est capable de te prendre le ballon, de te monter,
tout à fait.
Je pense que ça va un petit peu alléger Guendouzi, qui est un petit peu de partout, éventuellement Rongier. Après, j'ai entendu Gerson, mais il n'y en a pas assez, les gars. il n'y en a pas assez. Il va te faire 2-3 éclairs dans un match.
Il y a Under. Il faudra se demander où va jouer Under.
Il faut trouver une place.
Je vous le dis sincèrement, Under, j'aime pas plus de Under. On a raté les conneries. Under, il va jamais te crocher pour s'entrer de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à l'intérieur et il frappe. Chaque fois, il fait pareil. Il va te faire une ou deux passes, un exploit, une passe au bandage en bas. Après, c'est la façon dont l'équipe joue, messieurs.
13 buts, 6 passes dès l'année dernière, c'est pas mal.
Bernard, je te remercie parce qu'il y a d'autres appels de supporters marseillais, il faut qu'on partage le temps de parole. Merci à toi, excellente soirée et à très vite sur RMC. À bientôt, Bernard. On va faire une pause légale et directe d'abord. Toujours de partout, c'est le temps additionnel entre l'Inter et l'Olympique Lyonnais. Rapidement, Pierre Thévenet, la Super Coupe d'Allemagne, Leipzig-Bayern.
On joue la 95e minute, on est bien avancé dans le temps additionnel. Le Bayern mène toujours 4-3 dans cette finale de la Super Coupe d'Allemagne face à Leipzig.
Allez, reste avec nous, la suite de l'after dans un instant avec Simonet et Jonathan. Encore 2 minutes sur Marseille et on passera ensuite à la prestation de Nice face au Torino et le débrief de cet Inter Olympique Lyonnais. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. RMC.
L'after foot.
Nicolas Jamain.
L'after sur RMC, Jonathan Macardy et Simone Rovera, c'est terminé entre l'Inter et Lyon à Cesena, de partout, score final, on débriefera dans quelques minutes. Appelez-nous d'ailleurs supporters lyonnais pour nous dire ce que vous avez pensé de ce dernier match de préparation des Lyonnais ce soir. Marseille pour terminer les gars, tiens rapidement quand même peut-être la fin du match entre le Bayern et Leipzig, Pierre Thévenet.
Oui, le Roi Sané peut-être pour le cinquième du Bayern, mais oui, le cinquième but pour le Bayern, le but de le Roi Sané. Leipzig qui poussait dans ces dernières minutes, mais finalement c'est bien les hommes de Julian Nagelsmann qui auront le dernier mot. 5-3, le Bayern va remporter cette Super Coupe d'Allemagne ici à Leipzig.
Quel match, 8 buts déjà dans ce duel entre le RB Leipzig et le Bayern Munich. Finissons sur Marseille rapidement parce qu'on a eu beaucoup d'appels au 32-16. Ahmed nous a appelé notamment. Salut Ahmed.
Salut les gars, comment ça va? Vous allez bien?
Bien, bien et toi?
Salut Ahmed. Super.
Toi tu voulais revenir sur la situation de Bamba Dieng, hein, que Marseille veut absolument faire partir, en tout cas Longoria, pour encaisser un petit chèque et renflouer les caisses un minimum. Lui en revanche veut rester, absolument.
Ouais, c'est ça. Après bon, renflouer les caisses, sincèrement je sais pas combien. Bon, on parle de 10, 12, 15 millions d'euros. Moi ce que je trouve très dommage c'est qu'au final, apparemment on a mis la même somme sur Luis Suarez. C'est un joueur qui sur la dernière saison, sincèrement, il a pas été très 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 bon, de ce qu'on entend aussi des supporters de son précédent club. Et puis là, au final, on barre la route finalement, on recrute ce mec-là alors qu'il y a déjà Bokambu, il y a déjà Milik, etc. Et on recrute ce gars-là donc pour barrer la route finalement à Bamba Dieng. Et sincèrement, je trouve que comme beaucoup de supporters marseillais, je pense qu'on voit tous les matchs. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'on insiste beaucoup sur son déchet, mais bon, déchet, c'est normal. Plus il tente, plus il a du déchet, c'est automatique. Mais ce que je trouve dommage, c'est que enfin, voilà, le gars, on sent qu'il a vraiment un potentiel de malade. Il a une super frappe de balle, il est très rapide, il est explosif. Et là, on recrute un inconnu, alors qu'au final, on peut finalement, si on veut vraiment renflouer les quêtes, peut-être que dans 2-3 ans, on le vendra beaucoup plus cher, ce Bamba Dieng. Mais là, pour 10, 12, 15 millions d'euros, le même prix que Luis Suarez, sincèrement, je ne comprends pas la logique.
Mais surtout, n'oublions pas une chose, et moi, je te rejoins à 10 000% sur tout ce que tu viens de dire, c'est que c'est un joueur qui a à peine 30 matchs en Ligue 1, qui a déjà marqué, il fait une première saison pour un jeune de 22 ans en étant décisif 10 fois avec l'OM, qui a une marge de progression qui est énorme. Alors tu l'as justement dit, hein, on beaucoup mettent en avant son déchet, et moi ce que je vois c'est surtout sa progression, c'est le fait qu'au fur et à mesure de la saison il y a des choses qui se sont améliorées, il y a des axes de travail qui sont clairement définis pour lui, mais je pense que ça peut s'améliorer avec de l'expérience, de la confiance et le métier qui rentre. Et je ne comprendrai pas que Marseille le cède pour si peu, parce que c'est typiquement le genre d'attaquant. Alors je te dis pas qu'il va finir à Manchester United, hein, ou à Manchester City, mais c'est typiquement le genre d'attaquant qui peut te faire une saison à une douzaine de buts en Ligue 1 et que tu vends 25-30 patates à un club de PL.
Exactement.
Moi je trouve que c'est trop prématuré de se séparer de lui, sachant que dans ton effectif, alors tu as un mec qui certes a signé gratuitement mais qui a un salaire énorme, en la personne de Cédric Bakambu, et que c'est pas la priorité à faire partir, hein, Bamba Dieng.
T'as raison, Jonathan. D'ailleurs, vas-y Simone, après
non,
je prends la
parole. Alors il y a un peu de loi du mercato pour lequel déjà une plus-value totale que tu fais sur Bamba Dieng aujourd'hui, tu la prends, tu la mets à côté. Il y a beaucoup, si tu parles avec des observateurs, des scouts, de grands clubs, il y a beaucoup de doutes sur Bamba Dieng. Je comprends qu'il y a un grand potentiel, mais c'est un potentiel que pour certaines personnes dans le monde du football, c'est limité. C'est-à-dire, C'est pas les joueurs que et pour arriver à les faire.
On est un peu d'accord, Jonathan, quand même, non?
Ouais, mais je suis d'accord. Oui, d'accord.
Et pour les faire arriver à être un joueur à 20-30 millions, ça veut dire qu'il doit faire une saison pleine en tant que titulaire à Marseille et doit marquer des buts. C'est quand même un risque que je crois qu'aujourd'hui l'OM ne veut pas prendre. Par contre, soit un joueur déjà comme Suarez qui arrive d'une grosse avec une grosse boîte d'agents derrière. International, première chose, qui a eu déjà un prix d'achat qui est supérieur, qui n'a jamais joué à un niveau si important et qui peut le faire, et deux, qui fait un peu bien avec la Ligue des Champions, la cote augmente tout de suite. Tout de suite, parce qu'il y a déjà une référence avant. C'est quelqu'un qui a fait bien à Watford en deuxième division. C'est quand même un championnat très réputé. En Angleterre, comme il a déjà fait bien, il peut être revendu tranquillement parce qu'il a déjà fait bien, même s'il a une division inférieure. Pour les lois de Mercato, tu as beaucoup plus de possibilités de faire la plus-value à 30 millions sur Suarez que pour Bamadien.
Oui,
ce que je connais, et je connais pas tout, mais un peu que je connais du code de Mercato et de ce que sont un peu les mécanismes de Mercato sur les plus-values.
C'est très
sur
complexe, les gars. Effectivement, il y a beaucoup de supporters marseillais qui veulent absolument que Bamba Dieng reste.
Mais je comprends les supporters marseillais.
C'est vrai qu'on parle quand même.
En plus, il est motivé, le gars.
Il a très envie de rester à Marseille.
Il a dit, il partira pas.
Je sais que la situation n'est pas simple à gérer pour Pablo Longoria, qui doit jongler, un petit bricoler aussi parfois avec les moyens qu'il a, avoir des idées astucieuses par rapport au coup de pression de Franck Macourt. Il faudrait qu'on fasse un point un jour sur tous les ratés de Longoria aussi. Il a fait des choses bien. Tu l'as fait déjà?
On l'a fait ça.
Encham, Cuisance, Luis Enrique.
Bien sûr, je pense que si,
François.
Tangia, Nagatomo. Bassambou, on va voir. La gestion de Chalet Tatsar.
Le
cède pas.
Les seuls vrais ratés.
Alvaro, Amavi, prolongé. Beaucoup de choses, quand même, les gars.
C'est les Enrique qui a coûté de l'argent. Toi, Ancham arrive pour rien.
À une époque où tu peux avoir Darwin Núñez.
Cuisance.
Et lui n'en veut pas.
Tu peux pas. Tu n'as jamais pu avoir Darwin Núñez.
Non, il arrive.
J'étais dit. À l'époque, j'ai suivi les dossiers de Núñez tous les jours. Il n'y a jamais eu un moment, au-delà du rêve de l'avoir, d'avoir tout fait, où tu as eu une vraie possibilité de l'avoir, parce que quand Benfica a mis tout sur la table, c'était trop et Marseille ne pouvait pas arriver. Donc, dès qu'il arrive Longoria, il y a deux noms que je sais qu'il aime bien. Okay, un, c'est un joueur qui était jeune à la Fiorentina, qui venait de la Primavera, s'appelle Dusan Vlahovic. L'autre, c'était Darwin Núñez. Il a tout fait pour essayer de les prendre. Mais à l'époque, il n'avait pas les moyens. Donc, dans la hiérarchie, un peu plus loin, derrière ces deux noms, il y avait Luis Suarez. Pour Pablo...
Déjà à l'époque.
Donc, pour Pablo, pouvoir y arriver aujourd'hui et un prix si peu important...
10 millions.
C'est quand même une grande opportunité. On verra s'il avait raison.
Les deux premiers noms
de sa liste, Vlahovic et Núñez, il ne s'est pas trompé.
Voilà pour Marseille, les gars. Merci, Ahmed.
Merci, Ahmed.
Merci.
Excellente soirée à toi. À très vite sur RMC, les gars. Nice a joué son dernier match de prépa également cet après-midi. C'était à l'Allianz Riviera face au Torino. 1-0, but de Kevin Stengs. J'accueille notre correspondant sur la Côte d'Azur, Maxime Tillette. Salut, Maxime.
Salut, bonsoir à tous.
Salut, Maxime.
Bon, raconte-nous un peu ça. La dernière prestation niçoise, là, une semaine de la reprise. Est-ce que il y a du progrès? Est-ce qu'ils sont prêts?
Bon, après, ce serait un bien grand mot. Première mi-temps laborieuse, en tout cas, tout à l'heure. Pas vraiment de rythme. C'était un peu mieux en seconde. D'ailleurs, le but est venu des entrants avec une action initiée par la recrue roumaine Rares Ilie, qui a offert un caviar à Calvin Stengs seul face au but. Mais en l'état, il reste encore quelques détails à peaufiner au niveau de la préparation pour être prêt lors du déplacement dimanche sur la pelouse de Toulouse. Et on attend encore quelques recrues. Mais d'ici là, ça va arriver vite.
Je donne la compo, c'était un 4-3-3 dessiné par Lucien Favre avec Boulka dans le but, Lotomba, Todibo, Dante, Barre, Claude Maurice titulaire avec Rosario et Kefren Thuram dans l'entrejeu, Bilal Brahimi, Andy Delors et Amine Gouiri devant Stengs qui est entré à la 71e minute de jeu comme la recrue Rares. Il y est, messieurs, vous en pensez quoi pour l'instant de ce Nice qui, j'ai envie de dire, commence à peine son mercato? On va en parler dans un instant avec Maxime qui a des infos là-dessus aussi.
Alors, c'est long.
Nice a perdu du temps quand même.
Oui, Nice a perdu du temps. La route est longue. Moi, j'ai dit, je suis beaucoup partagé. À un certain moment, je n'avais pas totalement de confiance. Je pense que quand même, Favre peut faire des bonnes choses. Après, il faut qu'il comprenne aussi qu'il ne peut pas tout demander et qu'il y a aussi un club qui travaille. Il n'y a pas seulement lui qui peut faire les choix. C'est vrai que les matchs ont été, j'ai vu la deuxième mi-temps, le match a été compliqué. Il y a eu pas mal d'occasions pour Torino, il y a eu un bon Bulka, il y a eu aussi un peu de tension, et à un certain moment, il y a eu une bagarre générale au milieu de terrain avec tout le monde qui est intervenu.
Sanabria.
Ouais, voilà, il y a eu Sanabria qui est parce que alors là j'ai regardé sur les YouTube du club et il y avait la rediffusion d'une action et ça n'arrivait tard, donc j'ai pas vu que comment s'est créée toute cette histoire, mais pour dire il y a eu beaucoup de tensions aujourd'hui, il y a eu pas beaucoup de jeux, et donc c'est vrai que pour une équipe qui par les mots de Fèvre a un objectif d'être régulièrement en Ligue des Champions sur les prochaines années, de faire quelque chose de bien, c'est vrai que la route semble un peu plus longue de ce qu'on pouvait imaginer.
Maxime, tu confirmes, toi, au niveau du mercato, on annonce encore combien de joueurs à Nice ?
Bon, il y a Alexis Bekabeka qui devrait rejoindre le groupe très rapidement, en provenance, c'est ça, du Lokomotiv Moscou. Il y a juste, il a passé sa visite médicale, mais il y a un petit souci administratif. Bon, ça devrait être bon pour jouer la première journée
à Toulouse. Dernière, déjà. Il est parti à Moscou et il achète plus cher l'année suivante. Après qu'à Moscou, avec la situation, la guerre, etc., il n'a pas fait une super saison. C'est un peu...
C'est quasiment 10 millions, c'est ça ?
Ouais, mais l'année dernière, ils partent à Moscou pour 7 millions, 6 plus 1 de bonus, et je pense que Nice mettait 5
à l'époque. Ouais, c'est ça.
Et là, ils mettent pratiquement 12. Bon.
On parle de Kasper Schmeichel également, ça devrait se faire, hein, Maxime ?
Oui, c'est l'autre recrue qui devrait être attendue, mais alors il y a une condition, il pourrait être libéré de sa dernière année de contrat, mais seulement si Leicester trouve son remplaçant d'ici là. Donc en attendant, Marcin Bulka est bien joué et marque des points.
Il a fait un bon match.
Mais il est conscient, et on l'a évoqué tout à l'heure après le match, j'en ai discuté avec lui, il est conscient que il est très probable qu'un autre gardien arrive et donc et
comment
lui, il risque de voir son temps de jeu.
Comment il le vit,
il le vit plutôt
Bulka,
bien.
Parce que Gatti a adoré, il en voulait en faire un numéro 1.
Moi, il en a plaisanté avec nous. Hein. Il a clairement dit « Ah, si un gardien arrive, je m'en vais ». Et après, il a dit « Non, je rigole, sérieusement, ça fait partie du jeu. Là, c'est la concurrence, je suis encore jeune ». Enfin, il comprend tout à fait. Après, il dit ça maintenant. S'il passe toute la saison à rester assis sur le banc, peut-être que son point de vue évoluera. Mais il en est conscient, tout comme Dante, hein, qui va avoir 39 ans en octobre. Le gym cherche un renfort dans l'axe. Il y a des noms qui sont évoqués, notamment celui de Mattia Vitti, un jeune Italien qui joue à Empoli. Simone pourra sans doute nous en parler. Il y a un autre espoir italien pour jouer dans le couloir gauche d'Empoli, c'est Fabiano Parisi qui est évoqué. Ce sont des pistes qui plaisent beaucoup à Lucien Favre. Il y a d'autres options, là c'est la cellule de recrutement qui pense également à un prêt peut-être du portugais Alex Telles qui est barré à Manchester United, donc on cherche des idées.
Ouais.
Et puis devant aussi un profil un peu différent serait fortement apprécié par Lucien Favre, notamment il y a Thuram, Pléa ou encore Kalimuendo qui sont évoqués.
Ouais, parce que le problème c'est que l'effectif est quand même de qualité relativement intéressante. Certes, il y a eu des gros défauts l'année dernière qui étaient plus des défauts de jeunesse. Je pense que malheureusement, ce qui pour l'instant manque à l'OGC Nice, c'est surtout la grosse recrue derrière. Tu peux pas partir sur une saison en ayant un mec de quasiment 40 ans comme étant le leader de ta charnière. Et puis sur les côtés. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations pour l'instant. Il y a des joueurs, il y a Brahimi, etc. Mais il y a Stengs, mais c'est pas des garanties. Et dans le système de jeu de Lucien Favre, ça va être très important d'avoir des mecs qui soient capables de faire des différences sur les côtés de manière régulière. Et pour l'instant, j'ai quelques doutes.
Simone.
Ouais, d'autant que Amine Gouiri, qui était censé être une certitude, fait pas une préparation flamboyante.
C'est pas un joueur de côté. C'est pas un joueur de côté.
En tout cas, il veut jouer dans l'axe. Hein. C'est ce qu'il avait dit à Galtier maintes et maintes fois la saison dernière. Simone, tu voulais revenir sur le cas de Bulka notamment.
Alors, il y a plusieurs choses à dire déjà sur ce que veut Lucien Favre effectivement et sur les cas Bulka. La situation Bulka, c'est quand même très compliqué parce que. Faut savoir certaines choses. Déjà, Bulka, il y a deux mois et demi, avant que l'option d'achat soit levée, il pouvait rentrer à Paris. Paris voulait les faire venir comme numéro 2, parce qu'il était beaucoup plus sur ce qu'il avait fait, il avait montré sur cette saison à Nice, qu'il avait joué. De l'autre côté, il y avait un entraîneur à Nice à l'époque, qui était Christophe Galtier, il y avait un directeur sportif qui voulait les faire numéro 1. Et qui lui ont dit reste ici, enlève l'option et tu deviendras numéro 1. Quelques mois plus tard, le directeur n'est plus là, l'entraîneur n'est plus là, ironie du destin, ils partent juste à Paris Et l'entraîneur, Lucien Favre, considère qu'il faut un autre numéro 1. Quand, selon ce que je sais, au club, tout le monde veut que Boulka soit le numéro 1. Donc, il y a un peu de cette situation. L'été est encore long, il y a encore un mois. Boulka a fait toute la préparation, il a été bon. Il est titulaire. Demain, commence les championnats, sera lui le titulaire, parce que même s'il arrive notre gardien, je doute que deux jours plus tard, il soit mis titulaire.
Le gardien qui arrive, il a 35 ans aussi. Hein.
Les gardiens qui arrivent à 35 ans, il vient peut-être avec un contrat sûrement de 2 ans. Donc pour 2 ans, il sera là. Et Boulka, qui devait être les numéros 1.
Qui aura 24 ans à la fin, peut-être, il a 22 ans, Boulka.
Qui avait 22 ans et était l'assurance d'être titulaire, il ne sera pas titulaire. Donc pour moi, selon ce que j'ai compris, ce qu'on m'a dit, si arrive un autre gardien, il y aura un souci Boulka et c'est pas impossible qu'il y aura à chercher un sport de sortie pour Boulka qui on lui avait promis d'être titulaire numéro 1 et c'est pour ça qu'il avait accepté de rester à Nice. Et s'il arrive un autre gardien, l'autre entraîneur ne veut pas de Boulka, alors il y aura un problème.
Intéressant, Simonetti. Je précise également que le Daily Mail, qui évoque aujourd'hui un contact avec l'ancien milieu de terrain de la Juve, Aaron Ramsey. Bon, on verra ça plus tard. Merci, Maxime.
Oui, et puis juste un mot, mardi, tirage au sort des barrages d'Europa League conférence pour le GYM. Le GYM qui n'est pas tête de série, donc attention, ça peut tomber sur Villarreal, West Ham, la Fiorentina, les Young Boys. Enfin, il y a du lourd, attention.
Merci, Maxime. Excellente soirée à toi.
Bonne soirée.
Fiorentina, ce serait bien.
Pourquoi?
Parce que je pourrais aller le voir.
Tu pourrais aller le voir comme ça. Nice Fiorentina, pas mal.
Magnifique.
Allez, les gars, dans un instant, on parle de Lyon. Lyon qui a fait nul face à l'Inter, dernier match de prépa. Qui, si j'en crois les commentaires, là, on avait un œil sur le match quand même pendant l'after, les gars, a livré une prestation très intéressante et intense. Appelez-nous, tiens, supporter de l'OL au 32-16. Dans un instant, on va débriefer ça. Tout de suite.
RMC.
L'after foot.
RMC,
l'after foot,
Nicolas Jamin.
L'after Simonet Rovera, Jonathan Maccardi. On est ensemble ce soir jusqu'à minuit, messieurs, pour parler tout à l'heure notamment du Community Shield, la grosse victoire de Liverpool face à Manchester City, 3-1. Darwin Núñez qui a marqué, qui a provoqué un penalty aussi.
Impressionnant. Hein.
Qui a démarré très fort.
Les mêmes abdos que Simonet, il les a montrés.
Je rappelle que quand Simonet.
T'as raison.
Exactement.
Je rappelle que quand Simonet, quand on a fait les chapeaux, c'est ça? Non?
Ouais, je pense.
Chapeau attaquant, ouais. Avec Paulo Breitner. Quand tu as osé comparer Darwin Núñez à Erling Haaland, il a pouffé. Il a fait quoi? On mélange pas les torches pour les serviettes. Núñez face au cyborg norvégien, mais il a hurlé.
Au Liverpool.
Pour lui, il n'y a pas de comparaison possible.
Moi, j'ai dit
on verra.
Aussi que l'intégration de Núñez au Liverpool, pour moi, aurait été plus simple que celle de Haaland
dans le système Guardiola.
T'as entièrement raison en plus.
Mais évidemment que j'ai entièrement raison. Mais...
Bon, quand il sera à 42 buts, le cyborg norvégien, comme l'appelle Polo, on en reparlera, les gars.
Attention aux relations amour-haine que Guardiola a avec ses avances centrales.
C'est possible.
Est-ce que c'est plus Guardiola ou Tuchel qui a des relations à mort haine avec ses avances centrales parce que
Lukaku et Tourelle.
Lukaku, Icardi
Mais bon, Icardi n'importe qui aurait une relation de haine avec lui.
Écoute, il y en a eu qui ont beaucoup d'amour pour lui
aussi.
Aujourd'hui.
Ouais.
Simonet, parle devant le micro parce que tu te balades sur la table comme s'il n'y avait pas de micro.
Ouais, t'as raison.
Écris à la maison là quand même. Hein.
Et je suis à la maison.
Des résultats de matchs amicaux, les gars, avant de parler de Lyon.
Ouais, dis-moi un peu.
Crystal Palace qui a battu Montpellier 4-2.
Okay.
Lorient Ajaccio 1-1. 3 Nancy, 5-4 pour 3. Angers, La Spezia, 2-2. Brest, Valladolid, 0-0. Rennes battu à domicile par Aston Villa, 2-1. Victoire de Clermont à Toulouse, 1-0. Auxerre a battu le Red Star, 3-2. 0-0 entre Lens et West Ham. Lens qui n'a pas réussi à battre West Ham.
Il n'y a pas manqué de créativité. Il y a battu une équipe anglaise aujourd'hui. Donc. Palace, 4-2.
C'est
Aston Villa qui a battu à domicile Rennes et Lens West Ham 0-0.
Exactement.
Meilleur résultat, c'est pas évidemment Lens West Ham 0-0.
En revanche, le match qu'on a regardé ce soir également, c'était Lyon-Inter. Score final de partout, c'était en Italie à Cesena. Je vais accueillir Riyad au 32-16, supporter de l'OL. Salut Riyad.
Salut l'équipe, comment allez-vous?
Salut.
Bien et toi?
Ça va, nickel, génial.
Je rappelle les buteurs. Lyon ouvre le score avec Lacazette. Lyon mène 2-0 avec Cherki.
Je ne l'ai pas vu.
Réduction de l'écart, Lukaku à la 51e et Nicolo Barella à la 60e.
Ça, je l'ai vu, c'était magnifique le but de Barella. Pourquoi j'ai vu que le but
magnifique,
de
l'Inter. Magnifique, piqué Barella. Superbe.
Parce que je suis trop concentré dans notre débat pour regarder un match, c'est ça la vérité.
Bon, Riyad, t'en as pensé quoi de la dernière sortie lyonnaise avant la Ligue 1?
Eh ben, certainement la plus intéressante, pas par rapport au score, voilà, mais surtout sur l'intensité du match. On n'aurait pas dit un match amical, on aurait vraiment dit un match, un quart de Ligue des Champions. Donc, il y a beaucoup d'engagement, ça s'est beaucoup battu sur les ballons, etc. Donc, j'ai trouvé ça intéressant pour, eh ben, pour le défi physique, etc., pour être sûr d'être prêt pour le début de championnat. Ça reste un match amical, mais très intéressant dans le contenu, avec une équipe lyonnaise qui a quand même montré un joli visage, une belle copie. Donc beaucoup d'engagement, du réalisme, de la construction, ce que j'avais pas trop trouvé à Eindhoven, où on avait certes gagné, mais pas d'idée de jeu vraiment. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on n'avait pas trop construit de phase de jeu. Là, en l'occurrence, c'est quand même des choses intéressantes, des gamins qui poussent très fort.
Et Malo Gusto, c'est spectaculaire hein, quand même là. Ouais, depuis qu'il a repris là cet été.
Gusto Lukeba, c'est costaud. L'année dernière, j'avais eu un débat avec Aïd Gilbert en début d'année en disant moi, je veux Gusto à la place de Dubois. Il me disait c'était précoce, mais aujourd'hui, voilà, ça me donne raison. C'est vraiment.
J'ai l'impression que le gars, il a franchi deux paliers au cours de l'été. Quoi. Il revient avec une activité, une précision également. Tu te dis même si à 4 mois du mondial, vu qu'on est dépourvu de très bons latéraux à droite en équipe de France.
Le football va vite.
Léo Dubois est en sélection, donc à partir de là, tout est possible.
Exactement. Mais t'as vu les matchs à Augusto là?
Ce soir aussi. C'est pas mal, c'est pas mal.
Après, c'est pas mal. Et puis encore une marge de progression.
Moi, je prendrais plutôt Pierre Kaloulou.
Oui,
il peut aussi utiliser le central.
Oui.
Et qu'il est très bon avec des espoirs.
Et donc, du coup, ce profil plaît à Deschamps. Mais il y a une chose qui a été hyper intéressante, notamment en première mi-temps. C'est l'agressivité au pressing de tout le bloc lyonnais. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'intensité. Il y a eu parfois de l'engagement à la limite hein, pour un match amical, à l'image d'Otoko Ekambi que j'ai trouvé très très chaud ce soir. Mais
bouillant dans le sens tendu quoi.
Tendu, ouais. Ouais. Qui a été s'embrouiller un petit peu avec l'intégralité de l'effectif interiste. Mais voilà, il y a eu des bonnes choses et un petit point positif qui a dû faire plaisir aux Lyonnais, c'est l'entrée de Cherki. Il y a quand même des doutes sur son intégration ou pas vis-à-vis de la saison prochaine, s'il va rester ou pas. Il y a eu des mots de Peter Boss envers lui.
Une bonne entrée là. Hein.
Là, il fait une bonne entrée. Il fait une très bonne entrée. Il remplace Tété, il marque. Voilà, c'est bien.
En fait, les doutes, c'est pas sur son intégration, c'est plus sur son positionnement. Moi, je continue à dire que c'est un 10, c'est un créateur. D'ailleurs, à un moment, sur une phase de jeu, il élimine, il passe entre deux joueurs et du pied droit, il fait une transversale pour Barcola. On voit tout de suite le bas. Enfin, la vision de jeu qu'il a, pour moi, c'est plus un 10 qu'un ailier. Donc, je pense que le jour où on placera dans l'axe, on pourra peut-être plus exploiter ses capacités qu'en le mettant sur un côté ou
okay, mais il y a malheureusement dans le 4-3-3, il n'y a pas vraiment de place pour le faire jouer à ce poste-là.
Surtout qu'on a, pour moi, on a un crack au milieu et je veux vraiment pas parler de ça parce que.
Tu parlais de Le Penant?
Alors, Le Penant, à Eindhoven, il était un peu transparent. Là, je l'ai trouvé pas du tout impressionné. Il a vraiment fait son match.
Ouais,
mais c'est un MD. C'est un milieu défensif, donc c'est pas le même poste. Moi, c'est Paqueta. J'ai peur que Paqueta parte. On en parle beaucoup. Et vraiment, je veux vraiment, vraiment insister sur ça. C'est peut-être la vitrine de l'Olympique Lyonnais. C'est vraiment le top player qu'on a. Et j'espère vraiment qu'on le gardera parce que quand on voit la complicité qu'il a eu avec la Casette aujourd'hui, si ça se développe sur cette année de championnat, ça peut vraiment être prolifique pour notre équipe.
Bah, t'as tout résumé. Il y a des choses qui sont intéressantes. Après, je trouve que on verra aussi notamment sur les côtés. Hein, on parlait de Malo Gusto. Il y a Tagliafico. Il y a
quand même des. Tagliafico, excuse-moi, vous les trouvez comment les gars?
Bah moyen.
Tagliafico. Moi, pour une première.
Bien moyen plus quoi. Voilà.
Ouais, il était pas en dehors.
On peut pas lui en vouloir sur le but, même si Lukaku le mange un peu trop facilement. Je pense qu'il y a quatre têtes d'écart entre les deux. Il y a peut-être aussi un peu faute de
Lukaku.
Mais non, on sait que c'est un joueur à la relance. Donc c'est voilà, ça peut être une vraie plus-value pour l'OL, à voir dans quel état il est. Les derniers temps à l'Ajax, c'était très compliqué. Mais sur le papier, Tagliafico, Malo Gusto, Tété, t'as des vraies forces sur les côtés et c'est quelque chose que tu n'avais pas la saison dernière et qui peut être très frustrant pour le style de jeu de Peter Boss.
D'ailleurs, le binôme Gusto-Tété, je ne sais pas ce que vous en avez trouvé, mais moi, je le trouve vraiment...
Ouais, c'est intéressant.
Ouais, c'est exceptionnel.
Autant vous avez pensé quoi d'Awar ce soir?
Voilà, mais... Comment?
Et Awar?
Bah, Awar, c'est du Awar, quoi. C'est doux. Voilà, c'est un bon joueur de ballon, mais c'est doux. C'est que dans l'engagement, il n'y en a pas. La frappe, il n'y en a pas. Alors, et puis, je pense qu'il est dans sa tête, il n'est plus à Lyon.
Ça se voyait clairement ce soir.
C'est vrai que c'est pas nouveau en plus. Hein. Ça fait quelques temps.
Ça se voyait ce soir.
Je pense qu'ils l'ont aussi fait jouer pour le montrer un petit peu, le sortir, l'exposer et susciter éventuellement quelques convoitises. Mais Oussama Aouar, il faut absolument qu'il parte. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
Ouais.
Les gars, Lacazette, Taulier encore. Tu l'as trouvé comment?
Taulier, voilà, il n'en faut pas. 5 ou 6, quoi. C'est-à-dire qu'un bon ballon qui traîne, il va la mettre au fond, et ça, ça va être un vrai plus, parce que des occasions, l'année dernière, on en a eu. Sauf qu'on vendange beaucoup devant le but. Alors, je descends pas du tout Dembélé, hein. Je trouve que c'est un très bon neuf. D'ailleurs, il rentre, il met une barre, c'est un très bon neuf qui pèse, etc. Mais à la Lacazette, c'est peut-être c'est un niveau au-dessus, ah, dans la, je pense, dans le réalisme. Voilà, c'est que lui, vraiment, il a une niaque, il a une rage, et le ballon, il va le mettre au fond. Et ça, on l'a vu à Eindhoven avec sa frappe de 25 mètres. Alors oui, c'est opportun, mais il la tape, il la met. Là, sa tête, il va s'arracher, il va la mettre. C'est vraiment une plus-value. À contrario, Tolisso, bah, je reste sceptique parce que bah, c'est un très bon joueur, mais ça, si son physique le laisse tranquille, et depuis deux ans, c'est pas le cas. Autant Lacazette, il est prêt, et je pense que ça va.
D'ailleurs, Riyad, alors je suis pas un grand spécialiste du langage corporel, mais son comportement sur le terrain à chaque fois là, dans les matchs de prépa, je trouve que on dit long sur sa motivation, ouais. Son enthousiasme d'être ici et de porter l'équipe.
Lui, il avait dit ça sur
une façon de
presse,
de prendre les gars dans ses bras, de les embarquer avec lui. C'est pas fin, conférence de presse. Hein.
Non, mais il avait fait comprendre pour moi qu'il aurait dû cet impact, pas seulement dans les jeux, mais dans tout ce que était le contexte du vestiaire.
C'est suivi par des
terrain,
actes. Des paroles. C'est suivi par des actes.
Voilà, c'est une prise de parole qui a été suivie par les actes, et c'est la chose la plus difficile dans le football.
Moi, en tout cas, les gars, vis-à-vis de la préparation, il y a eu du bien, il y a eu du moins bien, notamment dans les matchs face aux équipes néerlandaises. Mais il y a une chose qu'on va.
Lyon deuxième de Ligue 1.
Non. Absolument pas. Il y a une chose qu'on attend absolument de voir.
Lui, il n'était pas là, mais nous, on l'a dit.
C'est de voir l'association, Le Penant qu'a créé au milieu. Alors, ça sera soit avec René Adélaïde, soit avec Tolisso, si son corps le laisse tranquille. Mais de voir deux gamins comme ça qui ont
Le Penant, je suis convaincu, vous allez voir.
Bah oui, moi aussi, ouais. Mais Le Penant plus Maxence Cacré, ça peut être très lourd. Très, très lourd.
Oui, mais on veut le voir en Ligue 1. Je suis convaincu.
Mais même si Tolisso restait à l'infirmerie, Le Penant Cacré, René Adélaïde, ça a de la gueule, hein.
Et c'est pour ça que je l'ai dit et je l'ai répète, et je vais faire du mal à quelqu'un. Si arrive l'offre pour Paqueta, il y aura des supporters qui vont pleurer, mais je pense qu'au club, il n'y a pas tout le monde qui va pleurer.
Oui, parce que dans le 4-3-3, il n'a pas vraiment sa place, Simonet.
Voilà. Donc, attention, ce mercato est long, et ça pourrait être la mauvaise surprise pour les supporters lyonnais, mais au final, dans comment on est en train de se dessiner l'OL saison 22-23, ça peut exister à Noël sans Paqueta et ça peut faire aussi bien.
Et surtout si on te dit que Paqueta est remplacé par un ailier qui t'assure la dizaine de buts par saison, un vrai attaquant de couloir, tu gagnes au change par rapport à la philosophie de jeu du coach. Donc bon, on verra.
On verra. Ajaccio-Lyon, pour lancer la saison, ce sera vendredi soir déjà. Cher Riyad, merci à toi Riyad.
Salut Riyad.
Très bonne soirée, à très vite sur RMC les gars, sur les matchs amicaux. Voilà, j'ai tout dit. Demain, je l'ai pas reprécisé, mais il y a un gros Marseille-Milan aussi, 60 000 personnes au Vélodrome. 18h, on sera là pour le débrief également.
Ça serait bien.
Il y a aussi un Liverpool-Strasbourg.
Mais ça serait bien de gagner un match quand même.
Tu sais pourquoi?
Mais t'as raison.
Tu sais pourquoi il joue à 18h? Pour ne pas avoir de problème de lumière.
T'as raison. Quel souvenir.
Et oui, effectivement,
on s'en souvient.
Ouais, voilà, mais bon.
On s'en souvient.
Une blague
qui passe bien, écoute.
Oui, Simonet.
Le 30 juillet à 23h, je te cache pas
que je passe bien. Oui, et puis un peu culture foot, un peu vieux de la vieille, c'est bien, Simonet.
Je te cache pas que je suis moins exigeant sur l'humour fin juillet, avant de partir en vacances, tu vois. Tu peux tout faire ce soir, Simonet.
Oh. Vas-y. J'ai déjà fait hier, toute fois.
C'était en folie hier. J'ai beaucoup de messages, hein. Qu'est-ce qu'il avait, Simonet? Il avait pris des cachets hier ou pas?
Allez, on va voir les messages.
Dans un instant, merci encore à Riyad. Dans un instant, on va parler de Liverpool City, bien sûr. L'avis de Jonathan également. Le foot a-t-il besoin d'investisseurs étatiques pour survivre? Restez avec nous. Et puis notre invité, c'est Anne Garnier en fin d'after. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.